Voici le quatrième épisode de ma série de podcasts consacrée à l'année 1986. Avec Coluche, qui meurt dans un accident de la route, le Luron emporté par un cancer, un prisonnier qui se fait libérer par sa gonzesse, le divorce qui gagne les États-Unis et des hommes qui se mettent à walper.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1986.
Le 19 juin 1986, Coluche déjeune à Cannes et en milieu d'après-midi, il rentre à moto à Grasse où il possède une maison.
16h15, le ciel est à l'orage. Coluche, suivi de plusieurs amis, à moto également, débouche d'un virage. Devant lui, à 60 mètres, arrive un camion en sens inverse. 60 mètres, les motards ont sans doute vu le camion et s'apprêtent à le croiser. Mais le camion tourne pour entrer dans un chantier du mauvais côté. Il barre ainsi la chaussée. Coluche ne s'y attend pas, il ne freine même pas, il n'y a pas de traces. Il vient heurter l'avant droit du camion. Son casque explose littéralement, il est tué sur le coup. Les pompiers arrivent tout de suite, mais il n'y a rien à faire. Coluche roulait très vite, dira le chauffeur du camion, ce qui n'est pas prouvé. Mais le chauffeur reconnaît lui-même qu'il n'a pas vu arriver les motos.
Coluche, Michel Colucci, avait 41 ans. Et trois mois plus tôt, il venait de terminer la première campagne des Restos du Cœur.
Aussitôt la nouvelle connue, des dizaines d'anonymes ont convergé vers le lieu de l'accident. Pas du tout par curiosité morbide, les véhicules étaient dégagés, mais plutôt par affection. Jusque tard dans la nuit, des voitures s'arrêtent, des inconnus en descendent, qui font quelques pas, pestent contre le mauvais sort et surtout parlent de celui qui leur manque déjà. À minuit, j'ai vu un motard solitaire venu se recueillir quelques minutes avant de filer dans la nuit. Sur les lieux mêmes de l'accident, il n'y a aucune trace. Simplement, sur le bord de la chaussée, une petite stèle faite à la hâte avec quatre pierres. Et sur cette stèle, une main anonyme a déposé un bouquet de roses. Coluche comptait beaucoup d'amis dans la région, comme partout ailleurs. Il était venu s'y mettre au vert pour travailler à son prochain spectacle, dans le calme, dans cette région de Grasse où même la brise embaume.
Le lendemain de l'accident, des badauds, des personnalités et la famille de Coluche arrivent au funérarium.
Moment d'émotion tout à l'heure au funérarium de Grasse. La mère de Coluche, sa maman, Monette, est venue assister à la mise en bière. Émotion de voir cette dame courbée, cette madame tout le monde qu'on est allé chercher dans son appartement de Montrouge et qui descend de limousine au bras de Paul Lederman. Petit pincement au cœur quand on s'aperçoit de profil combien son fils lui ressemblait. Grâce, Jean-Bernard Cadier, Europe 1.
La mort de Coluche touche beaucoup les Français. Au-delà de son humour, c'est sa générosité et son engagement pour les plus faibles qui émeuvent.
Ah ouais, ça me fait de la peine à fond. C'était un motard déjà. C'était un grand motard et puis c'était un mec qui nous faisait bien rire, quoi. C'est lui qui avait fait les Restos du Cœur.
Et sinon, dans ses sketchs, qu'est-ce que vous remarquez le plus?
Il est très franc. Et il cache pas la vérité, quoi. Il casse bien.
Il a repris le langage des jeunes, justement.
T'as vu, il avait 41 ans, il paraît. Il faisait pas son âge. Il va nous moquer, quoi.
Parce qu'il était génial, il était franc, il savait plaisanter, il était génial. Oh, manif des moteurs, il était là, il était partout. C'était génial. Bah, quand on a entendu ça, ça fait drôle. Ça surprend, c'est vrai.
Moi, je l'aimais bien parce qu'il était contre le racisme, contre la faim.
Vous avez des disques de lui chez vous?
Ouais, le Schmemmick, c'est génial.
J'avais toute la série des Interdits. C'était très très chouette.
Quand je serai grand, je serai con, j'ai son disque.
J'apprécie pas spécialement ce qu'il faisait au point de vue artistique, mais au point de vue humain, j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a fait pour l'Éthiopie, pour les Restos du Cœur.
Et j'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, s'il y a des gens qui sont intéressés par sponsorer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer par faire à Paris par exemple, puis qu'on étalerait après dans les grandes villes de France. Nous, on est prêts à aider une entreprise comme ça qui ferait un resto, par exemple, qui aurait comme ambition au départ de faire 2000 ou 3000 couverts par jour gratuitement.
Sur Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach joint la bande de Coluche, le premier cercle, comme l'actrice Miu Miu.
Excusez-moi, je viens d'apprendre, c'est pour ça. Mais je ne sais pas ce qu'on va faire sans lui, surtout. Je ne sais pas. Déjà, je ne peux pas dire c'était... Mais je sais pas ce qu'on va faire sans lui, parce que c'est un garde-fou fantastique. C'est une intelligence tellement foudroyante et rapide par l'humour. C'est grâce à lui, enfin, ouais. Surtout avec lui, que j'étais plus apprentie, quoi. J'ai commencé au café-théâtre, à la méthode, dans son cabaret, en 69. Alors, ouais. Vous voyez, ça fait longtemps. Enfin, voilà. Je m'appelle toujours comme il m'a appelé. C'est comme ça.
Ouais. C'est lui qui avait trouvé votre nom?
Oui, bien sûr.
Ouais.
Je peux pas dire grand-chose.
Gérard Lanvin était intime de Coluche et il est sous le choc.
Il m'a tout appris, Coluche. Il m'a appris à rire surtout. Et je sais pas quoi vous dire, mais je vous appelle pour vous dire qu'on a perdu un grand mec, quoi. C'était un ami, quoi, un frère, quoi. Quand un ami se barre, ça fait mal, quoi. Connaître quelqu'un, ça met beaucoup d'années, quoi. Ça fait plein de souvenirs, quoi, et ça s'échalait quand il s'en va, quoi.
Réagir à chaud à la disparition d'un proche est très difficile. Thierry Leluron, qui s'était marié pour de faux avec Coluche 9 mois plus tôt, délivre un hommage à la gloire de son comparse.
On bat les années en fonction de la naissance du Christ, et je crois que le rire, on peut le dater maintenant avant ou après Coluche. Je veux dire, quand il est arrivé, il a fait sauter tous les tabous, et il y a eu un vent de liberté qui a énormément soufflé, dont tout le monde a profité, je dois dire, et moi pas le dernier. Il y a tout un tas de tabous qui ont sauté grâce à Coluche, et il a apporté vraiment un nouveau rire, quoi. On a parlé de la nouvelle cuisine, on a parlé... Mais le nouveau rire, c'est à Coluche qu'on le doit.
5 jours plus tard, les obsèques de Coluche se déroulent en l'église de Montrouge. Et le cercueil est escorté par des motards qui pleurent comme des gosses. Au cimetière, Yves Montand s'adresse à Michel au nom des saltimbanques.
Tout ce que je pourrais te dire, ça pourrait être que de la, une sorte de flagornerie ou du superlatif. Tu vois, moi je suis là aujourd'hui parce que ton ami Lederman m'a dit que si un jour tu partais en voyage, tu aurais souhaité que je sois près de toi. Alors voilà, je suis près de toi. Et comme on dit dans le midi, ça me fait bien plaisir. Mais j'aurais préféré te rencontrer et te retrouver dans d'autres circonstances. Alors tu vois, je ne vais rien dire d'autre. Je ne vais rien expliquer. Parce qu'il n'y a rien à expliquer. Ceux qui t'aiment, et ils sont impactés, crois-moi. On dit que c'est la minorité, mais ça fait une minorité qui fait une drôle de majorité, tu sais.
Paresseuse, paresseuse, elle est paresseuse. Est-ce vraiment la paresse? Ou trop de quoi ou qu'est-ce? Apparemment, elle est heureuse. C'est la plus heureuse des paresseuses. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi.
C'est la ouate.
De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi.
C'est la ouate.
Pas bosseuse, et tous les beaux mecs s'usent. Elle s'en fout, elle balance son cul avec indolence. Elle s'en fout, elle se balance de savoir ce que les autres pensent. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi.
C'est la ouate.
De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi.
C'est la ouate.
Les matières, c'est la ouate qu'elle préfère.
C'est la ouate.
Passive, elle est pensive, en négligé de soi.
C'est la ouate. C'est la ouate.
C'était Caroline Loeb avec son tube de 1986. C'est la ouate.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1986.
Toute l'année 1986, Thierry Leluron s'emploie à faire taire une rumeur. On dit qu'il est malade, qu'il n'en a plus pour très longtemps. L'humoriste vient notamment s'en expliquer sur Europe 1, chez Jean-Pierre Elkabbach.
Parlons franchement, parlons des rumeurs. J'ai effectivement fait un petit séjour à l'hôpital. Quand je dis un petit séjour, c'est parce que c'était un court séjour, 8 jours en tout et pour tout, pour une méningite virale qui était grave, dont j'aurais pu ne pas réchapper, ou qui aurait pu me laisser paraplégique ou à l'état de légume. Il y avait une quatrième solution, c'était que je m'en sorte, et ça a été le cas. Je suis resté plus de 2 ans sur une scène à Paris. Là, je fais ma rentrée, j'ai quand même arrêté le 16 mars, je fais une rentrée le 29 octobre. Guy Bedos lui fait une rentrée tous les 2 ou 3 ans, et moi, quand on ne m'a pas vu depuis 4 mois, ça y est, on m'enterre.
Mais on se dit...
Je ne cache pas que ça m'a affecté beaucoup, je n'étais pas misanthrope et je le suis devenu. Si je dois quelque chose, c'est au public, mais ce qu'on appelle les gens du tout Paris, qui sont toujours les 2000 cons qui sont invités partout et qui vous chient dessus après, je n'ai plus envie de les inviter ni de les fréquenter.
C'est un milieu méchant.
C'est un milieu de tapettes insignifiantes qui ne se complaisent que dans la fiente. Ces 2 couplets que j'ai mis en imitant Brassens en chanson d'entrée.
On peut dire, Thierry Luron, ça va.
Bah écoutez, vous viendrez voir.
Thierry Luron donne rendez-vous pour son spectacle du 29 octobre 1986. Mais malheureusement, malgré ses démentis, le Luron est en réalité très malade. Un communiqué tombe la veille du début du spectacle parisien. Des nécessités médicales impérieuses obligent Thierry Luron, atteint d'un cancer des voies respiratoires, à se soumettre à un traitement qui l'empêche actuellement d'honorer ses engagements. C'est le professeur Léon Schwarzenberg qui soigne le Luron. Et fait exceptionnel, le médecin s'exprime sur l'incapacité de l'humoriste à se produire au Palais des Congrès.
J'ai décidé de parler pour 2 raisons. La première, pour expliquer au public les raisons pour lesquelles M. Thierry Luron serait dans l'incapacité d'effectuer les représentations qui étaient attendues et pour lesquelles, semble-t-il, un certain nombre de personnes avaient déjà loué leur place. Et la deuxième, pour donner un modèle en France de ce que peut être un être humain qui décide de lutter contre un cancer en l'annonçant ouvertement, de façon à ne pas laisser systématiquement aux États-Unis, par exemple, cette espèce de vertu indiscutable qui consiste à affronter l'adversité en la faisant valoir aux gens qui nous entourent.
La maladie, c'est un cancer. Un cancer de quoi ?
J'ai dit que c'était un cancer, c'est vraiment un cancer. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce que vraiment rentrer dans les détails, ce serait rentrer dans les détails de sa vie privée. Je vous assure que j'ai déjà eu beaucoup de mal à lui demander de se faire traiter, ce qui empêcherait les représentations, je ne peux pas en dire plus.
Vous avez un diagnostic réservé? Vous pensez qu'il ira mieux le mois prochain?
Non, alors moi j'ai un diagnostic qui n'est pas réservé, c'est ce qu'on a fait valoir. Je pense qu'à partir du moment où il a décidé de se traiter, il devrait aller mieux, il devrait pouvoir envisager de reprendre ses représentations, disons qu'on en reparlera dans un mois.
Le professeur Schwarzenberg soigne Thierry Luron avec les toutes dernières avancées américaines sur le cancer. Mais malgré cela, 2 semaines plus tard, le 13 novembre 1986, l'humoriste qui vivait à l'hôtel Crillon s'éteint dans la chambre 440.
Il était environ 4h du matin lorsque l'état de Thierry Luron s'est aggravé. C'est, semble-t-il, l'artiste lui-même, victime d'étouffement, qui devait donner l'alerte. Immédiatement, le professeur Schwarzenberg, qui le suivait depuis le début de sa maladie, s'est rendu à l'hôtel Crillon, où l'artiste habitait depuis quelque temps. Mais le matériel de soins installé dans la chambre était jugé insuffisant. Devant l'urgence de la situation, le professeur Schwarzenberg décidait alors de faire transporter Thierry Luron en ambulance à la clinique du Belvédère, un établissement proche où le médecin a ses habitudes. Immédiatement, l'artiste était placé en réanimation dans le centre de soins intensifs de la clinique. Pendant près de 3 heures, Léon Schwarzenberg et un autre chirurgien ont tout tenté pour essayer de sauver Thierry Luron, mais à 7 heures ce matin, l'artiste n'a pas résisté à une dernière syncope.
Dans la rue, les Français sont sous le choc. Le Luron n'avait que 34 ans.
Bah, il vient de mourir.
Mais c'est vrai, c'est pas une plaisanterie?
Non, non.
Là, vraiment, ça me fait quelque chose parce que ça avait l'air d'être un charmant garçon.
C'est pas vrai.
Oui.
C'est pas possible. C'est vrai qu'il est mort. Ça me fait quelque chose. C'était quelqu'un qui donnait de la gaieté, de la gentillesse, puis surtout beau, très simple, très gentil.
Il était assez marrant, il dénonçait un petit peu l'effet de la société.
Et quelle imitation vous préfériez?
Pratiquement celle du président de la République, de M. Mitterrand.
Sa façon de parler en tirant les lèvres, tout ça, j'aimais bien.
On a perdu un grand comique aussi, c'est vrai. Avec Coluche, et penser aussi à Daniel Balavoine et enfin tous ceux qui viennent de mourir maintenant.
Oui, je l'ai entendu ce matin, monsieur, avec peine, parce que c'était le meilleur. Enfin, ils étaient 3 ou 4 bons, mais lui, le meilleur.
Quand il était président, tout ça, ça
vous... Là où il était le meilleur, c'est avec le chef du Parti communiste, avec Marché.
Thierry Luron avait débuté sa carrière tout gamin, à 18 ans. Très érudit, curieux, il était un brûleur de vie. Guy Bedos, l'humoriste étiqueté de gauche, a souvent été opposé à Luron. Mais en ce jour de deuil, Bedos remet tout en ordre.
Je trouve que c'est bien jeune pour mourir si brutalement. Enfin, il y a tout un ensemble d'émotions, d'impressions. J'ai été assez copain avec lui parce que j'étais ébloui par ses dons. On nous a fâchés, entre guillemets, plusieurs fois et on s'est réconcilié. Mais que dire, je trouve que le sort est bien méchant pour les clowns cette année.
L'année 1986.
Le 29 septembre 1986, la matinale d'Europe 1 ouvre sur un phénomène américain. Là-bas, le modèle de la famille serait dépassé.
La famille américaine est en voie de disparition. C'est la constatation faite par les experts. Les études qu'ils viennent de rendre publiques sont spectaculaires. Le pourcentage des divorces aux États-Unis est aujourd'hui le plus élevé du monde. Un couple sur deux marié cette année va se séparer à coup sûr. Un enfant sur cinq né en 1986 aura une mère célibataire. Les 3/5 des enfants qui naîtront cette année vivront la plus grande partie de leur enfance et de leur adolescence dans un couple désuni. Un foyer sur quatre est aujourd'hui constitué par une femme seule avec un enfant au moins. Les divorces, les séparations ont doublé en 15 ans.
Il y a de plus en plus de familles monoparentales aux États-Unis. Alors, la société américaine tout entière s'adapte.
Les emplois à mi-temps se multiplient pour les femmes. De plus en plus d'écoles nourrissent les enfants à midi et deviennent des garderies, etc. La grande question est de savoir si cette tendance à la désintégration de la famille américaine, qui s'est manifestée au début des années 60 et qui n'a pas cessé de s'accentuer depuis, va se poursuivre ou décliner. Les spécialistes ne s'attendent pas à des changements spectaculaires dans les 15 prochaines années, mais ils prévoient un ralentissement de cette évolution. De toute façon, les hommes politiques de toute tendance s'attaquent à ce problème. Ils veulent que le divorce devienne plus difficile à obtenir et plus coûteux.
En France, la ministre des Affaires sociales, Georgina Dufoy, s'inquiète aussi des divorces qui augmentent.
Quand on se dit que dans cette société, un mariage sur deux dans la région parisienne va aboutir à un divorce, bon, et si on se contente de dire « oh là là, c'est terrible » et qu'on s'en occupe pas, bon, on va aller à une catastrophe. Si au contraire on se rend compte que c'est devenu normal, pratiquement normal que de divorcer, et que, bon, il faut faire avec et être, bon, et en faire même une force, le construire la société autour de ce qu'elle a de très solide, c'est cela que j'aimerais essayer de faire avancer.
Et avec les divorces, se pose la question de la garde des enfants. À qui doit-elle revenir ? Automatiquement aux mamans, le chanteur Renaud veut casser les clichés.
Le problème, c'est que c'est pas souvent les enfants qui choisissent, ni même les parents. En cas de divorce, c'est plus souvent la justice qui choisit, qui décide que ça sera la mère. Et je sais qu'il y a une association des pères de divorcés qui milite pour avoir la garde des enfants. Et ça me paraît assez important de la signaler, cette association. Oui, parce que je crois que la justice, dans 95% des cas, confie la garde de l'enfant à la mère. Et ce qui n'est pas forcément... Ce qui ne devrait pas être systématique, sous prétexte que c'est vrai. Tu vois.
Un gamin de 12 ans illustre ce problème du choix des enfants. Il s'appelle Cédric. Ses parents sont divorcés depuis 3 ans. La justice l'a placé chez sa mère, à Tarbes. Mais lui désire vivre avec son père. Alors le 1er novembre 86, il fugue. Et il parcourt en stop 400 km qui le mènent chez son paternel. Ce geste étonnant force la justice à revoir son jugement. L'avocat du père de Cédric décrypte ce revirement.
Cette décision n'est pas une défaite pour la mère, ni une victoire pour le père. C'est la prise en compte du besoin actuel de l'enfant.
Il semble quand même que de plus en plus, les juges n'hésitent pas à confier en cas de divorce l'enfant à son père. Est-ce que ça se vérifie dans les faits ?
De plus en plus, les deux parents sont présents auprès de l'enfant. Alors, il arrive effectivement que dans certaines circonstances, soit que les parents s'entendent, soit que le juge estime que le père est mieux placé dans un moment donné que la mère pour élever l'enfant.
Time.
C'était Prince avec son tube de 1986, Kiss.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1986.
Le 26 mai 1986, Nadine Faujour prend les commandes d'un hélicoptère Alouette 2. À ses côtés, un ami. Et leur objectif est de libérer Michel Faujour, le compagnon de Nadine, qui est incarcéré à la prison parisienne de la Santé, en plein 14e arrondissement. Ce projet fou se déroule en milieu de matinée.
On est au-dessus de la Santé, c'est bon. Vas-y, largue le sac. Allez, largue tout. C'est bon, Nadine. Il est là. Allez, on dégage, dégage. Dis-lui que je l'aime. Je l'aime.
Il est 10h45 lorsqu'un hélicoptère Alouette 2 avec deux personnes à bord, dont une femme qui pilote l'appareil, se met en vol stationnaire juste au-dessus de la prison de la Santé. L'appareil a été loué ce matin même par une jeune femme sous le nom de Léna Rigon. Cette jeune femme prenait depuis une dizaine de jours des cours à la société Air Continent de Saint-Cyr. Écoutez le témoignage de cet homme qui a vu l'hélicoptère arriver ce matin juste au-dessus de la prison de la Santé.
Il est resté, moi, à mon avis, hein, à peu près 2-3 minutes au maximum. Et de là, on l'a revu prendre de l'altitude avec un gars accroché à l'extérieur de l'hélicoptère et puis laissant tomber une arme à l'intérieur de la prison.
Pour réussir cette évasion, l'homme avait gagné armé le toit de la prison avec un de ses complices qui, lui, n'a pas eu le temps de s'échapper. Cet homme, c'est Michel Faujour, un spécialiste des hold-up et des vols à main armée.
Michel Faujour, honorable membre du grand banditisme, purgeait une peine de 18 ans et ça faisait 13 ans qu'il croupissait en prison. Quatre fois, il a déjà essayé de s'évader. Mais c'est à son cinquième essai qu'il parvient à se faire la belle par les airs grâce à sa belle. Un coup à la Bonnie and Clyde.
L'opération qui lui a permis de réussir ce matin était parfaitement organisée. Elle a duré moins de 5 minutes, puis l'hélicoptère a atterri quelques instants plus tard, vers 11h sur un terrain de football, en plein milieu de la cité universitaire internationale de Paris. Depuis, on est sans nouvelles de Michel Faujour et de ses complices. Devant la prison de la Santé, Frédéric Albert, Europe 1.
Cette évasion par les airs a surpris tout le personnel de la maison d'arrêt de la Santé, comme le rapporte un témoin à Europe
1. Les gardiens ont mis très longtemps à réagir, ils n'étaient visiblement pas armés, semble-t-il. Alors, mon père, qui observait les choses à la jumelle, a vu un homme armé d'un fusil à l'intérieur de l'hélicoptère, et il semble que c'était une femme qui pilotait l'hélicoptère. Et ces gens-là étaient en noir.
Cette évasion est d'autant plus exceptionnelle qu'elle est romanesque. Parce que d'habitude, ce sont les hommes qui libèrent les femmes de leur donjon. Le reporter d'Europe 1 retrouve le loueur de l'hélicoptère qui se rappelle très bien de Nadine Faujour.
Physiquement, c'est une petite bonne femme, pas très grande, je lui donnerais une trentaine d'années à peu près, menue, tout à fait ordinaire.
Elle se comportait comment avec vous? Elle était gentille? Elle discutait souvent?
Oui, elle était sympa. Rien vraiment de particulier. La personne qui accompagnait, a priori, attendait dans la voiture que la machine soit prête pour venir à la machine. Personne ne l'a vu pratiquement. Il y a juste la personne qui aidait à préparer la machine qui l'a aperçue. On sait qu'il avait un sac à la main, genre sac de sport. C'est la seule chose que l'on savait. Et a priori, on m'avait quand même posé la question la veille pour me demander si on pouvait retirer une porte à la machine pour faire des photographies.
Et vous aviez accepté?
Non, je ne veux pas que mes machines volent porte ouverte, à moins que ce soit des pilotes professionnels de la maison.
Évidemment, le reporter s'étonne que l'hélicoptère ait pu se diriger vers la prison sans attirer des soupçons des autorités aériennes.
Vous prenez une machine volante, que ce soit un hélicoptère ou un avion, vous n'avez absolument pas besoin de déposer plein de vols, on est libre de faire ce qu'on veut, c'est comme une voiture, vous allez où vous voulez, vous faites plaisir, vous vous promenez, vous pouvez même à la rigueur, si vous n'êtes pas dans les sites urbains, vous vous posez chez des amis, vous pouvez faire ce que vous voulez avec.
Ça coûte combien une heure de vol?
L'heure de vol sur l'appareil qu'elle a pris coûtait 2200 francs heure net. Elle nous avait payé jusqu'à maintenant. Je ne crois pas être payé sur ce vol-là.
Michel Faujour sera repris quelques mois plus tard sur un braquage et il retournera en prison. Sa compagne plongera aussi. Nadine passera 18 mois en détention. Et à sa sortie, elle raconte cette évasion stupéfiante.
Les choses se sont déroulées au fur et à mesure, à mon avantage. Bon, il faisait très beau, il n'y avait pas de vent, l'effet de surprise avait marché. Mais la veille et les mois précédents et les semaines, les cauchemars m'ont pas quitté. Je me voyais écrasée dans la cour.
Je ne vais pas vous demander si vous recommencez un jour.
Oui, vous pouvez me le demander, je répondrai non. Et ça, c'est certain aussi.
Pourquoi vous êtes aussi catégorique ?
Parce que j'ai surtout pas envie d'y retourner. J'ai la chance de revenir, d'être vivante, que ce soit bien passé. Voilà, ça suffit. J'avais promis, je l'ai fait. Maintenant, on ne le refait pas une deuxième fois.
En 1989, Nadine Vaujour écrira son histoire, La fille de l'air, et son livre sera adapté au cinéma avec Béatrice Dalle dans son rôle. Sacrée bonne femme que cette Nadine.
Hey, Andy ! Hey, Andy ! C'est une copine à moi qui m'a dit que tu t'appelais Andy. Andy, ça fait un moment que je te suis, Andy. Hey, tu viens chez moi? Ou alors on va chez toi? Allez, Andy, quoi. Oh, dis-moi oui. Chou, Andy, dis-moi oui.
Mitsuko, avec leur tube de 1986, Andy.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1986.
Au printemps 86, une nouvelle mode fait fureur, le bas. Une vendeuse de prêt-à-porter décrypte pour Europe 1.
On en vend de plus en plus et même du bas jarretière qui se vend beaucoup. Le bas qui tient tout seul, oui. Du bas fantasy également. Enfin là, on sent qu'il y a un retour au bas très, très prononcé.
Alors comment l'expliquez-vous ?
Je pense que ça vient un peu de la part des hommes.
Ah bon ?
Les hommes aiment bien les bas et les porte-jartelles, alors ça a redonné le goût du bas. Et puis en plus, la femme redevient féminine, ce qui est très agréable.
Est-ce que c'est la mort du collant ?
Ah non, quand même pas, parce que la femme a un côté quand même pratique.
Et les Françaises confirment rigolardes tout l'avantage du bas.
Les bas, c'est un côté sexy, pratique. Mmh. Bon, on se sent mieux à l'aise. Je vous avouerai même que j'en mets sous les jeans.
Ah bon ?
Bon, c'est très pratique. Justement, ils ont fait un procédé élastique qui ne serre pas la jambe.
Moi, je porte presque que des bas parce que c'est beaucoup plus sexy, c'est beaucoup plus sensuel. Et au moins, on a l'impression de ne pas perdre son temps. Le collant, c'est pour la contractuelle.
Pourquoi ?
Parce qu'elles n'ont pas besoin de les retirer avec sensualité, tout simplement.
Et franchement, là, j'ai un petit problème parce que j'arrive plus à en trouver. Là, ils parlent des nouveaux bas qui tiennent tout seuls. C'est beaucoup plus pratique puisque les jartelles, les jarretières, ça tient pas souvent. Mais franchement, c'est le cinquième magasin que je fais et j'en trouve plus. Et là, avec l'été qui revient, en plus, c'est beaucoup plus hygiénique, c'est beaucoup plus sympa. Enfin, je préfère.
Et votre fiancé, lui, qu'est-ce qu'il préfère ?
Bah écoutez, je pense qu'il préfère aussi. Enfin bon, on verra.
En 1986, les vêtements masculins sont fluos et les vestes se portent amples. Et George Michael se pointe aux American Awards avec seulement la veste, torse poil. La star du groupe Wham déclenche des cris d'hystérie.
The winner is Wham.
Thank you. Thank you very much.
George Michael n'est pas le seul à s'exhiber. En 1986, c'est la mode des hommes à poil. À la télévision, on trouve des hommes en slip dans toutes les émissions de variété. Par exemple, quand Mylène Farmer chante Libertine dans l'émission estivale de Christophe de Chavannes, la chanteuse est entourée de deux hommes bodybuildés et en moule bite qui se dandinent approximativement.
Je suis Libertine.
Enquêter. Cette mode n'est pas anodine, car c'est en 1986 que l'on assiste à Paris au premier spectacle de striptease masculin calqué sur les Chippendales. Et Europe 1 envoie une enquêtrice à interroger l'un de ses Apollons.
Pour m'amuser, hein, et puis parce qu'il y a beaucoup de filles ici.
Et vous aimez les filles?
Bien sûr que j'aime les filles, sinon je ne serais pas là.
Et ça vous plaît de danser devant elles, de vous montrer nue et tout?
Ah, moi je danse pas et je suis pas nue, je suis désolé. J'ai encore mon nœud papillon sur moi.
Parmi les spectatrices, la chanteuse Nicole Croisy, absolument charmée.
Moi j'avais déjà un faible pour les danseurs déjà au départ, j'en connaissais quelques-uns. Je suis très séduite par les danseurs, mais je dois dire que les cinq garçons dans leur personnalité très différente, il y a de quoi satisfaire toutes les femmes. Qui fantasment, hein. Il faut fantasmer pour venir ici. Et puis il ne faut surtout pas prendre les choses au sérieux, ça aussi c'est important.
Il y a aussi des hommes dans le public. Celui-là par exemple, qui est beau joueur.
Hein. Je dois quand même reconnaître en tant qu'homme en fait que les hommes sont présentés sur scène sont vraiment très très beaux. De superbes proportions, un super spectacle bien rythmé. Et je veux dire que ça m'a beaucoup plu.
Sensuel ou pas?
Oui, assez sensuel, mais j'ai été un petit peu déçu du fait qu'il restait toujours un petit quelque chose, un petit morceau de tissu, et c'est un petit peu dommage.
En 1986, l'homme se déshabille, il se sensualise, mais perd-il de sa virilité? Europa pose la question à l'actrice excentrique Alice Sapricht.
Je crois que ça s'équilibre. Le fait que l'homme ne soit pas macho, on dit il est devenu mou. C'est pas vrai. L'homme moderne de 86 veut que la femme soit un complément à son union et pas du tout la femme habillée en noir derrière sa chaise en train de servir la soupe. C'est parce que les mentalités changent et Dieu merci.
Et à votre avis, la vie de couple disparaît au profit d'une nuit passagère?
Pour moi, un couple, c'est 50-50. Il y a autant de bons couples que de mauvais, comme en 86, comme dans le passé. Seulement maintenant, on veut donner un autre éclairage à tout ça, comme les pédérastes. Il y a eu autant de pédérastes maintenant qu'avant. On dit, oh, mais il y en a trop. Mais non, il y a eu autant, mais on n'en parlait pas. Vous savez, rassurez-vous, messieurs, vous avez encore le temps de garder votre mollesse, parce que la femme a encore beaucoup de galons à gagner.
J'ai pas envie de l'avoir vu. J'ai pas envie.
C'était Troisième Sexe, titre absolument incontournable d'Indochine en 1986. Je remercie comme d'habitude Guillaume Maury, Julien Pichenet et Boris Paczynski qui a réalisé cet épisode. La suite de notre exploration de l'année 86 dans le cinquième épisode dont De la Traconte une année.
Retrouvez On De la Traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.